Il y a quelque temps, je faisais un live Instagram dans lequel je disais qu'il est normal d'être paralysé par la peur quand on veut lancer un nouveau projet. Ce n'est pas une défaillance, c'est normal. Ce n'est pas un problème de discipline ou de motivation, c'est normal. Et ce que je recommande dans ces cas-là, ce n'est pas de pousser encore plus, de vouloir en faire encore plus parce que c'est impossible. Ce que je recommande, c'est de définir le minimum qui doit être fait et s'attaquer à ce minimum-là. Et une jeune dame m'a demandé pendant ce live, comment est-ce que je définis ce minimum? La question est intéressante parce que la jeune dame pensait avoir un problème de méthode. Elle ne sait pas comment définir le minimum. Elle pensait qu'il lui manquait un cadre et surtout, elle pensait qu'elle devait mieux faire. C'était une tâche en plus sur sa table. Alors qu'en réalité, elle était déjà en surcharge cognitive. Donc, une charge de plus, impossible pour elle. Elle était déjà en état de paralysie, ce qui est un indicateur de saturation, parce que justement, quand on veut lancer un nouveau projet, on est saturé, on a réfléchi, on a structuré, on a déjà énormément travaillé, et là, c'est une charge de travail en plus de devoir le lancer. Donc, elle était déjà en saturation. Et là, elle cherche à ajouter une couche de décision dans un système déjà instable. La réponse que j'ai donnée, c'est « tu ne peux pas définir le minimum si tu ne prends pas soin de toi ». Pourquoi ? Parce que tu ne peux pas organiser quelque chose qui est déjà désorganisé à la base. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Quel que soit ce qu'on souhaite réaliser, qu'il s'agisse de lancer un projet ou de faire fonctionner une initiative existante, les gens fonctionnent généralement de la même manière. Premièrement, on définit des objectifs. Ensuite, on les découpe en tâches. Quand ça ne marche pas, on ajoute encore plus de tâches parce qu'on se dit qu'on n'en fait pas assez. C'est la raison pour laquelle on n'arrive à rien faire. Et enfin, on essaie de tenir dans ce système-là sur la durée. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que ça reste une logique de production, alors que le problème est en amont. Tout à l'heure, je l'ai dit, quand on découpe en tâches et qu'on n'arrive pas à effectuer ces tâches-là, le premier réflexe, c'est d'ajouter encore plus de tâches, parce qu'on se rend compte qu'on est en train de rien faire. Et pour combler ça, on se dit, je dois travailler 3 fois plus, 4 fois plus, pour pouvoir y arriver. Alors que déjà, le minimum sur la table, on n'arrive pas à le faire. Le problème, généralement, ce n'est pas quoi faire, même si c'est ce sur quoi tout le monde se focalise. Quoi faire n'est pas le problème. Le problème, c'est dans quel état tu le fais. On fait souvent l'amalgame entre capacité et volonté. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup remarqué en accompagnement. Les femmes que j'accompagne viennent souvent me dire « j'ai l'impression que je ne veux pas, j'ai l'impression que je manque de volonté, j'ai l'impression que je ne suis pas assez disciplinée. » Pourtant, généralement, c'est le système dans lequel elles fonctionnent qui les rend incapables de faire ce qu'elles veulent faire. Ce n'est pas un problème de volonté, c'est un problème de capacité. Et une fois que tu fais l'amalgame entre capacité et volonté, tu t'en veux de ne pas pouvoir effectuer une tâche ou alors porter un projet ou le maintenir, alors qu'en réalité, c'est que tu ne peux pas y arriver. Ce n'est pas que tu ne veux pas. C'est pas que tu n'es pas motivé ou que tu n'es pas assez discipliné, c'est que tu ne peux pas porter ce projet. Tu peux avoir toute la clarté du monde. Si ton système est saturé, tu n'exécuteras pas comme il le faut. Et là, je vais aborder une question fondamentale qui malheureusement est très mal comprise. C'est la question du self-care. On doit requalifier le self-care. J'ai fait un épisode dessus en février, je pense, 2025, où je disais que le self-care était une arnaque. Dans cet épisode-là, je disais ceci. Je disais que, pour ce qui est des femmes, parce que je parle généralement aux femmes, les femmes ont énormément de charges sur les épaules. On a le travail, on a la maison, on a la famille nucléaire, la famille étendue. Vous me direz, oui, ce n'est que 3 éléments, mais ces 3 éléments-là portent énormément de sous-éléments. Je ne veux même pas commencer à les lister. Et on a fait croire aux femmes que le self-care est une récompense. Quand tu as beaucoup travaillé, tu mérites un soin de visage. tu mérites une manucure, tu mérites une pédicure, tu mérites un massage. Et le plus beau dans tout ça, c'est que quand on parle de self-care, on parle généralement d'esthétique. C'est-à-dire que tu te fais belle pour te récompenser de souffrir autant. Tu as tellement souffert et tu as tellement bien souffert parce que tu c'est une récompense. Donc, c'est pour saluer des efforts et de bons résultats. OK? Donc, tu as tellement bien souffert, tu as tellement bien supporté cette souffrance, tu as tellement bien navigué à travers cette souffrance-là que tu mérites de te faire belle. Va te faire les ongles, bébé. Tu le mérites. Il y a aussi la notion de luxe parce que ces ongles, ces soins de visage, étant donné que c'est une récompense, tu iras dans un endroit luxueux parce que ben, tu le mérites. Ce n'est pas tous les jours, c'est une fois l'année, c'est une fois tous les 6 mois, une fois tous les 3 mois. Donc, pourquoi ne pas faire les fous et vraiment se récompenser? Le self-care n'est pas une récompense. Le self-care, c'est une fonction. Et cette fonction-là ne se limite pas seulement à ta beauté, elle englobe ta beauté. C'est-à-dire que cette partie esthétique n'est qu'une partie, justement, d'un tout qui est bien plus grand. Et ce tout qui est bien plus grand, c'est comment est-ce que tu prends soin de toi sur la durée. Pas à un moment donné, mais sur la durée. Il y a quelque chose de fondamental à comprendre. Prendre soin de soi fait partie du travail. Je répète, prendre soin de soi fait partie du travail. En réalité, le problème, c'est qu'on a fait, on a dissocié travail et repos. Pourtant, en réalité, c'est la même chose parce que c'est deux éléments qui se complètent. Essaye de te reposer sur des années sans être productif en quoi que ce soit. Ce que ça donne, c'est un état de fatigue lamentable. Plus tu dors, plus tu as envie de dormir. Plus tu es idle, comme on dit en anglais, plus tu as envie d'être idle. Et tu te sens mal parce que tu te sens lourde, tu te sens... Physiquement, ce n'est pas le meilleur des états. Les gens qui disent « Oh, j'aimerais me reposer pendant des années », je peux t'assurer que je ne souhaite à personne d'être idle pendant des années. Je l'ai été quand j'attendais que la vie se révèle à moi. Et c'était très difficile. Parce que vu que tu te reposes, tu manges ce que tu veux, tu regardes des films toute la journée, tu dors à pas d'heure, de toute façon, tu n'as pas d'heure de réveil. Donc, life is breeze. La vérité, c'est que ce life is breeze-là, c'est toi qui t'enfermes dans un cycle dont tu ne sortiras jamais. Tu fais du mal à ton corps en lui donnant ce que tu penses que tu aimes. Du coca, des chips, des burgers, parce que voilà, je me repose, je chill un peu. Sauf que sur des années, je suis désolée. Idem pour le sommeil. Pourquoi est-ce qu'on parle de nombre d'heures de sommeil? Ce n'est pas forcément pour être reposé. Oui, ça, c'est la première fonction. Mais c'est aussi parce que si tu dors trop, tu n'as plus envie de faire que ça. Ton système entier s'endort. C'est le même vécu quand on travaille sans arrêt. Si tu travailles sans te reposer, après tu craches parce que ton système ne peut pas supporter. Autant le système peut supporter un repos éternel, autant il ne peut pas supporter le travail éternel. Donc, c'est deux parties d'un tout. Le fait de dissocier les deux est un problème. Dormir, c'est une question de maintenance. Ralentir, c'est une question de régulation. S'isoler, c'est de la récupération cognitive. Dire non, c'est la protection de capacité. Donc oui, tu as besoin de travailler, mais tu as aussi besoin de te reposer, de t'isoler, de te ressourcer. Donc si tu attends d'avoir bien travaillé, et on sait tous ce que signifie bien travailler, c'est-à-dire que tu t'es brûlé les ailes, tu n'as plus d'énergie, tu es au seuil de l'évanouissement. Si tu attends d'avoir bien travaillé pour prendre soin de toi, tu travailles déjà sur un système dégradé. On vit dans une ère d'hyperproductivité. Les exemples qu'on a sont les personnes qui ont tout explosé. On a Elon Musk, on a Steve Jobs, on a Zuckerberg, on a le gars d'Amazon là, comment il s'appelle? Jeff Bezos. On a this guy, what is his name? Bill Gates. C'est ça, nos modèles. Des gens qui disent qu'on ne se repose pas, il faut toujours être au taquet, il faut toujours travailler. Il ne faut jamais freiner, parce que si tu freines, tu perds des opportunités de marché. Je le dis et je l'ai toujours dit, la plupart des personnes qui sont hyper productives au point de ne jamais se reposer sont des personnes traumatisées. Je vais reparler une fois de plus de Gary V, parce que c'est Gary V qui m'a mené au burn-out. Je ne dis pas que c'est sa faute, parce que c'est ma faute également d'avoir suivi ses recommandations il y a une dizaine, une quinzaine d'années. Mais c'est le modèle Gary V qui m'a mené au burn-out. Gary V disait ceci: il ne faut jamais t'arrêter. Tu dois être constamment en train de travailler et c'est comme ça que tu auras des résultats. Si tu t'arrêtes, ça veut dire que tu ne veux pas vraiment atteindre les résultats que tu souhaites atteindre. Ce n'est que du bavardage. Tu n'es pas prête à faire ce qu'il faut. Gary V travaille tellement, du moins je ne sais pas si c'est encore le cas, mais c'était le cas à l'époque, il travaillait tellement qu'il ne voulait pas perdre un seul moment de sa journée. Donc, il embauche des gens pour le filmer all day, every day. Quand il a une idée qui lui vient en tête, ou alors une recommandation, un conseil, ou un éclat lumineux qui lui vient dans le cerveau, il veut le dire immédiatement et il veut le capturer immédiatement. Donc, il y a quelqu'un qui filme en même temps que ça se passe pour que ça puisse aller sur les réseaux sociaux. Il est sur tous les réseaux sociaux à la fois. En plus de ça, il a quelqu'un qui porte sa bouteille d'eau, c'est-à-dire quelqu'un qui était payé à l'époque pour lui porter ses bouteilles d'eau. Donc, il ne devait pas... In fact, tout était optimisé au point où aucune seconde n'était perdue. Et il disait, c'est ça qui a fait ma réussite, c'est comme ça que tout le monde qui réussit vraiment fonctionne, on ne se repose jamais. Sauf que Gary V porte des traumatismes qui l'ont mené au fait de ne se sentir exister que parce qu'il travaille de manière excessive. C'est-à-dire qu'il n'est personne s'il n'a pas des résultats excellents en tout temps. Et nous, on copie des modèles sans comprendre la source de ces modèles. On applique des traumatismes dont on n'a pas souffert. On crée des systèmes sans comprendre sur quoi ils reposent. On se dit, j'applique sa méthode. Oui, mais quels sont ses paramètres de définition de départ? Pourquoi est-ce qu'il fait ce qu'il fait? Qu'est-ce que toi, tu veux atteindre? Est-ce que tu veux vivre une vie où tu n'existes que par les résultats? Tu dois le définir pour savoir si cette lancée-là, c'est vraiment la tienne. On ne se relève pas d'un burn-out comme si on se levait d'une sieste. Ça prend des années. Et aujourd'hui encore, 8 ans après, je vis les séquelles de ce burn-out. C'est ce moment-là qui m'a permis de redéfinir ce qu'est le travail et surtout ce qu'est le repos. Ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'on peut être hyper productif, non pas parce qu'on se brûle les ailes au travail, mais parce qu'on crée un système qui nous permet d'être vraiment productif parce qu'on va bien et non pas parce qu'on se fait du mal. Avant, je travaillais énormément, mais j'estimais que tout travail qui n'était pas visible n'était pas un travail. Ce qui fait que quand je devais faire des tâches en back-office, ça m'énervait littéralement parce que je me disais, personne ne le verra et personne ne verra donc que j'ai des résultats. Et c'est ça en fait le mindset. Pourtant, le véritable travail se fait en back-office. C'est ça qui solidifie tout ce que les gens voient. Quand les gens ne voient que peu, ça ne signifie pas que tu n'en fais que peu. Ça signifie que peut-être tu es encore dans une phase de réelle mise en place de ton socle. Et ce socle-là, il est nettement plus important que tout ce que tout le monde pourra voir. Parce que sans ce socle-là, oui, des gens verront ce que tu produiras, mais c'est sans solidité. Ça peut s'effondrer à tout moment. Parce que si tout ce que tu fais, c'est en front office, qui s'occupe des bases? Qui s'en occupe? Et c'est la même chose quand je parle de repos. Le repos fait partie de ces bases. La manière dont je vis ma vie aujourd'hui est très simple. Je ne considère rien comme une perte de temps. Je répète, je ne considère rien comme une perte de temps. Si je décide de me faire les ongles, c'est non seulement pour me vider la tête, mais c'est aussi une partie de ma communication. Ma communication interne, ma communication externe. Le fait de prendre soin de moi me permet de me calibrer intérieurement comme une personne qui se met sur certains standards. Et donc, une certaine valeur à ses propres yeux. En termes de communication externe, ça me permet de projeter une image qui donne des signaux avant même que je n'ouvre la bouche. On sait sur quel standard je me mets. Vous me direz, oui, mais il ne s'agit que des ongles. C'est parce qu'on vous a fait croire que ça, c'est du luxe et c'est pour la beauté. It doesn't work that way. All these things have a reason to be. Si tu les définis comme il faut. Si je m'épile les jambes, même chose. Si je me fais les cheveux, c'est la même chose. Si je dors, je décide qu'aujourd'hui, je suis vraiment fatiguée, je dors. On me dira, oui, mais tu te prends une journée comme ça. Parce que si j'avais été devant l'ordinateur, je n'aurais rien produit de cohérent parce que je suis fatiguée. OK? Et j'aurais encore repoussé un repos qui aurait été salvateur. Et le lendemain, je ferais la même chose. Je vais continuer de me pousser, de me pousser, de me pousser encore. Et le quatrième, le cinquième, le dixième matin, je n'aurais pas envie de me réveiller. Je n'aurais pas la force de me lever. Et là, je vais me dire, oh non, je manque de motivation. Je ne suis pas assez disciplinée. Il faut que j'ai une to-do list qui me dit ce que je dois faire. Parce que peut-être que si j'ai ça devant les yeux, je pourrais me lever. It has nothing to do with your to-do list, my dear. Ton système est fracturé à tous les niveaux. Tu ne peux pas injecter de la volonté dans un système qui ne te donne pas l'espace d'avoir la capacité de faire ce que tu as à faire. Vous savez, les applications de tracking sont mainstream aujourd'hui. On veut traquer sa progression sur de nombreux éléments. On veut traquer son sommeil, on veut traquer son working out, ses sessions de fitness, on veut traquer ses heures de lecture. On traque énormément de choses en se disant, je veux être productive et m'assurer que je reste productive comme il le faut. Okay? Ce qu'on ne comprend pas, et là, je ne suis pas en train de dire que ces applications ne sont pas importantes. Elles le sont, j'en ai moi aussi, je les utilise, du moins certaines. Par exemple, je traque mon intermittent fasting, je traque mes séances de course ou de marche. Oui, basically, bon, c'est ce qui me vient à l'esprit. Peut-être que je traque autre chose, mais ça ne me vient pas à l'esprit. Donc, c'est important de pouvoir comprendre ses progressions et comprendre son fonctionnement. Mais ce dont on ne se rend pas compte, c'est qu'on s'évalue en tout temps. C'est-à-dire qu'on est toujours en train de se mesurer par rapport à un idéal. Ça crée une culture de toujours faire et une glorification de la charge. On a l'impression que ça nous mène plus loin. Pourtant, parfois, et même très souvent, c'est une pression supplémentaire, c'est une surcharge mentale, c'est une perte de régulation naturelle. Personnellement, ces applications de tracking-là, parfois, je les arrête. Je stoppe tout, je ne traque plus rien. Pourquoi? Parce que si mon système est en surchauffe, si déjà j'ai énormément de charge mentale par rapport au travail, par rapport à mon état émotionnel, par rapport à ma vie en général, je n'ai pas envie de sortir pour courir, prendre de l'air, vivre de l'esprit, et de le mesurer. Parce que finalement, ce n'est plus une prise d'air, c'est une performance. Le cerveau ne se repose jamais. Il faut dormir, se forcer à dormir à une certaine heure parce que ton application doit te dire que tu as eu 7 heures de sommeil, 8 heures de sommeil. Il faut courir à une certaine vitesse parce que ton application te dit que là, tu es un petit peu lent. À quel moment est-ce que tu recommences ou alors tu réapprends à faire certaines choses juste pour les faire parce que c'est naturel de le faire. C'est naturel de sortir courir ou marcher pour prendre de l'air, pour se vider l'esprit. C'est naturel et normal de se coucher et de dormir. C'est naturel et normal de vouloir s'évader et de prendre un livre. Parce qu'il y a aussi cette histoire de livres où les livres de fiction ne sont pas de vrais livres parce que ça ne t'apprend rien. Tu dois absolument lire des non-fictions pour pouvoir évoluer. This is too much for you. This is too much for your brain. This is too much for your system. Et il y a Solène qui en parle dans un épisode de Multifocus où elle parle justement du tracking et de cesser de faire des choses par plaisir, mais pour se prouver qu'on peut avoir une performance louable à nos propres yeux. Je vous recommande véritablement ce podcast-là. Je ne fais pas me stresser alors que je suis déjà stressée. Sauf que, généralement, c'est présenté comme « Oh, ça va te déstresser parce que ça va structurer d'une certaine manière, tu pourras traquer. » Non, il y a des moments où je n'ai pas envie de traquer parce que je n'ai pas envie de m'évaluer. J'ai pas envie de me mesurer à quoi que ce soit, à qui que ce soit, à une application qui me dira que oh, tu as eu 3 secondes de retard par rapport à ton temps record. Et au lieu de profiter de ma course, je vais juste penser à oh non, je n'ai pas aussi bien fait que d'habitude. Franchement, demain, il faudra que je fasse mieux. I don't need that all the time. Oui, j'ai besoin de traquer ma progression quand je suis dans une optique de progression. Quand je suis dans une optique de cool down, I don't need that. Parce que ça augmente le coût cognitif sans améliorer ma capacité réelle. Je ne suis pas en capacité de courir 30 secondes sur une durée définie. Je veux juste courir pour me vider la tête, pour aller mieux. Donc, qu'est-ce que ça dit de ma capacité réelle? Rien du tout. Je ne peux pas mesurer ma capacité dans ces moments-là parce que je ne suis pas dans une optique de performance. Si le but, c'est de pouvoir mesurer combien est-ce que je produis quand je ne vais pas bien, en sachant que ce n'est pas une mesure de comparaison et d'évaluation, c'est juste une mesure de, how do you call this thing, d'observation, c'est une chose. Mais si c'est dans le même mindset que quand je vais bien, je me tire une balle dans le pied et je me fais du mal pour rien. Le travail ne se limite pas à produire. Il inclut la régulation de la capacité à produire. Voici ce que produit la production. Tu me diras produire, production. Voici ce que produit la production sans régulation. Surperformance à court terme. Épuisement, instabilité et ensuite arrêt forcé parce que ton corps n'en peut plus, il stoppe. Voici ce que produit la régulation sans production. Stagnation, évitement, illusion de progression. Et là, on revient sur le fait que je parlais du repos éternel. Que signifie production régulée? On a une question de continuité, stabilité, de progression réelle. Parce que ce qu'on ne comprend pas souvent, c'est que l'idée, ce n'est pas d'en faire plus. C'est de pouvoir tenir une vitesse donnée sur la durée. C'est cette vitesse-là qu'il faut calibrer. Et il faut comprendre que la régulation est active et non pas passive. Elle demande des décisions, elle demande des limites, elle demande des arbitrages. Par exemple, parfois, je me force à stopper. Je me dis, mercredi, je vais prendre un temps off. Vous me direz, oui, mais nous qui sommes dans les bureaux, comment est-ce qu'on peut y arriver? C'est très simple. Tu peux décider que le mercredi, je ne rentre pas avec du travail à la maison. Le mercredi, je rentre, je termine le travail à l'heure normale. Je ne fais pas l'heure supplémentaire que je fais d'habitude. Le mercredi, quand je rentre chez moi, je déstresse. Je prends un cocktail, je prends un verre de bissap, je mets de la musique, ou alors je regarde un film, ou alors je lis un livre. Vraiment, je ne veux rien savoir. Ou alors, j'amène mes enfants prendre une glace, on rigole, on s'amuse, je déstresse. Et il faut intégrer cette partie de déstress-là dans le travail. Parce que, je le dis toujours, ça en fait partie. Ce n'est pas toi qui t'échappes du travail. Ce n'est pas toi qui fuis tes responsabilités. Au contraire, tu es tellement responsable que tu comprends que ta ressource première, c'est toi-même. Et si tu n'en prends pas soin, question productivité, c'est mort. Donc, je reviens à la question de la jeune dame qui me demandait comment est-ce que je définis le bare minimum? Si tu poses cette question, c'est déjà que tu es en surchauffe. Ça ne va pas. C'est-à-dire que c'est une tâche de plus. Parce que tu as déjà, comme tout à l'heure je le disais, sur ta table, tout ce que tu as à faire, tout ce que tu n'es pas en train de faire et qui te stresse. Et en plus de ça, tu dois encore fouiller dans tout ça pour pouvoir ressortir le bare minimum. It doesn't work that way. Il faut cool down. Il faut que tu puisses respirer. Prends soin de toi. Repose-toi. Et je vous assure, les éclairs de clarté et les éclairs d'inspiration et de génie qu'on a pendant les sessions de repos ou juste après les sessions de repos, you cannot even imagine how valuable they are. Et puis, il y a une chose importante, c'est que le bare minimum se définit à partir de ta capacité réelle, pas à partir de tes objectifs. Ton objectif peut être conquérir le monde, comme Cortex dans le dessin animé Cortex et Minus. Mais, est-ce que ta capacité réelle te permet de conquérir ce monde demain? Non. Et c'est la raison pour laquelle Cortex, à tous les coups, loupait sa mission. Minus, qui n'avait jamais, mais alors jamais, comme objectif de conquérir le monde, arrivait toujours et à chaque épisode de s'animer à conquérir le monde. Il avait défini dès la base ce qu'il ne fait pas. Je reste moi en tout temps. Et sa personnalité, qui était toujours égale, lui ramenait toujours plein de monde autour de lui. Sa manière d'être et d'agir faisait en sorte que même sans avoir des objectifs, il explosait tout. Et dans le dessin animé, il était présenté comme l'idiot. Et Cortex, dont le nom vous dit énormément de choses, Cortex, une partie du cerveau, qui était supposé être le plus intelligent et qui n'arrêtait jamais, ne réussissait jamais. Minus connaissait sa capacité réelle. Cortex ne connaissait pas la sienne. Il faut identifier ton état. Ce n'est que de cette manière-là que tu peux définir ton bare minimum. Le bare minimum, c'est le minimum syndical que tu peux accomplir. Identifie ton état. Si tu es en saturation, si tu es en fatigue, adapte en conséquence. Et quand je dis adapte en conséquence, ça veut dire que tu as besoin de repos. Repose-toi. Parce qu'il y a des phases où le minimum, c'est maintenir, tout simplement. Ne rien ajouter de nouveau, juste maintenir l'existant. Il y a des moments où le minimum, c'est ralentir. Quand tu n'en peux plus, tu ralentis, tu prends soin de toi, tu te reposes. Et le moment où le minimum, c'est ne pas décider. Parce qu'il y a aussi la surcharge décisionnelle qui est un réel problème et ça, on va en parler. Tu essaies de prendre des décisions dans un système désorganisé, fracturé, brisé. Et tu as l'impression que c'est un problème de motivation, de capacité. Mais en fait, tu es en surcharge, le système ne marche pas, tu n'arrives à rien accomplir et tu t'en veux à toi. Comment, dans cet état-là, tu penses que tu peux réfléchir objectivement pour sortir de toutes les tâches que tu as à faire, les plus importantes que tu peux faire aujourd'hui? Et ce n'est pas assez bon. Tu n'as pas assez de clarté pour ça. Je vais terminer en disant ceci. On fait une grande confusion entre repos et récompense. Et ça doit cesser. Et on fait une grande confusion entre production et travail. La plus grosse confusion qu'on fait, c'est cette séparation entre repos et travail. C'est en réalité la même chose. C'est deux faces d'une même pièce. Tu es une ressource avant d'être un outil. Sauf qu'on se considère tous comme des outils, alors qu'en réalité, nous sommes la ressource première. Sans nous, aucun travail ne se fait. Sans nous, aucun objectif n'est atteint. Sans nous, aucun résultat n'est enregistré. Et c'est ça que tu dois comprendre. Ce n'est pas « malgré toi, c'est fait ». Malgré, tu n'es pas un outil, tu n'es pas un marteau, un clou, je sais pas, une fourchette. Tu es la ressource principale. Tu es celle qui apporte sa réflexion, sa créativité, son effort, sa force pour pousser ce que tu veux accomplir. Si tu ne gères pas ta capacité, tu vas continuer à interpréter tes limites comme un manque de discipline. Le problème, ce n'est pas que tu n'en fais pas assez, c'est que tu t'attends à produire dans un état qui ne le permet pas. Donc, si tu as besoin de dormir, dors. Si tu as besoin de prendre soin de toi, prends soin de toi. Ne considère pas tes soins esthétiques comme de la luxure ou comme une récompense. Ça n'a absolument rien à voir. Ça fait partie du travail. Le travail et le repos ne sont pas deux éléments distincts. C'est deux faces d'une même pièce. Sur ce, people, bye. 1, 2, 3.